RCF.
On est avec le père Joël Guibert, prêtre du diocèse de Nantes. Et on s'attarde sur les écrits de saint François de Sales et notamment sur ce que vous avez choisi d'aborder, le secret de la sérénité. Alors le secret de la sérénité, il passe par la providence, par le fait de laisser faire Dieu. Laisser faire Dieu, c'est à l'origine de l'abandon. Et vous le disiez, père Joël Guibert, on va s'arrêter parce que c'est important de bien comprendre que tout ce qui nous arrive au cours de notre vie est soit directement voulu par Dieu, soit indirectement permis par Dieu. Alors vous comprenez bien que ça peut parfois surprendre sur notre rapport au mal et sur la souffrance. Comment est-ce qu'on peut comprendre que Dieu vienne au cœur de cette souffrance ?
D'abord, il est l'innocent du mal. Il ne pouvait pas aller plus loin pour nous sauver du mal, puisque lui, l'innocent, est allé habiter une chair d'homme, se laisser crucifier par les hommes et endosser cette haine et y répondre par du pur amour, pour faire mourir la mort par sa mort. Il ne pouvait pas aller plus loin. Donc arrêtons de l'accuser, un minimum.
On accuse qui ?
Dieu, je veux dire dans notre monde et à l'intérieur de l'Église. C'est-à-dire que non seulement il y a eu des blasphèmes le jour et durant sa vie, mais il souffre encore plus des blasphèmes d'aujourd'hui, à savoir de l'accuser d'être quelque part responsable du mal ou d'en jouir quelque part de, je ne sais pas. Non, il est vraiment l'innocent du mal. Il n'a pas été plus loin que ce qu'il a fait pour nous sauver du mal. Maintenant, on doit dire ceci. Alors vous comprenez, il faut certainement beaucoup de doigté. Pas du tout, alors d'abord parce que les gens souffrent, mais parce que à force de ne plus annoncer la providence, le non-dit devient un dit pour les catholiques. C'est-à-dire, ils se disent quoi ? Oh ben, les curés en parlent plus, donc ça ne doit plus être de rigueur. Et ce qui fait que parler de la providence se servant du mal, elle ne le veut jamais en tant que telle, mais s'en servant en vue d'un plus grand bien, est devenu un langage imbuvable, parce qu'on ne leur dit plus. C'est devenu comme si c'était du javanais.
Et c'est pourtant parfois cette expérience qui va convertir certaines personnes, l'expérience de trouver Dieu dans sa souffrance.
Écoutez, je vous partage quelque chose. J'ai écrit un premier livre où j'ai raconté dedans mes souffrances, justement, Renaître d'en haut. Et comment j'ai fini par dire oui au bout de 20 ans et que ma vie est maintenant complètement changée. Je le redis, c'est pas absence de souffrance, mais c'est totalement différent. C'est impensable pour moi d'écrire un livre. Bon, et j'ai écrit ce livre et il s'est vendu, enfin bon, il s'est beaucoup vendu. Et j'ai reçu beaucoup de courriers. Et je vous donne un courrier qui est très intéressant. Une dame que je n'ai pas rencontrée, mais qui m'a écrit quelque chose de très beau. Son mari avait une petite entreprise, il devait être d'un certain milieu, je pense. Et puis, son affaire a capoté. Donc la clé sous le paillasson, quoi. Et puis elle, qui était une femme très très religieuse, épouse, mère, et très équilibrée, tout d'un coup, petit à petit, elle est tombée dans une dépression. Et puis, position fœtale sur le lit tous les jours, nuit et jour. Donc, vous voyez, le mari, ça devait être assez sympa. Chômage, et puis l'épouse en dépression, et je dois faire la cuisine et le reste. Une amie à elle, cette femme, lui dit, tiens, j'ai lu ce livre, Naître d'en haut, dont je vous parlais à l'instant. Tiens, lis-le, ça pourrait te faire du bien. Et la dame m'écrit, vous savez, j'avais surtout pas envie de lire votre livre, je l'ai laissé sur la table de nuit. Puis, au bout d'un moment, elle me dit, comme on finit par s'ennuyer, j'ai fini par ouvrir par hasard. Et là, ça a été ma grâce. Vous avez écrit en substance ceci, que même dans les situations les plus terribles, Dieu est là et peut s'en servir pour nous en combler encore plus de grâce. Ah, ça m'a... Au lieu de la foutre par terre, si vous permettez l'expression, elle s'est dit, mais... Et si c'était vrai ? Le lendemain, elle n'était plus en pyjama. 3 semaines après, avec son accord du médecin, elle arrêtait de prendre des médocs. 3 mois après, elle devenait évangélisatrice et elle racontait dans sa lettre « Mon père, j'ai dû acheter 30 de vos bouquins !» Je me pensais en moi-même. « Vas-y, vas-y, il n'y a pas de problème !» Et j'ai distribué parce qu'elle était tellement touchée. Qu'est-ce qui l'a touchée, cette femme qui était dans la souffrance, puisque un père de l'Église dit que la dépression, Diadoque de Fautissé, rien que le nom vaut le déplacement, ce père de l'Église dit que c'est des souffrances qui relèvent de l'enfer. Et qu'est-ce qui l'a touchée ? C'est que tout ce qu'on peut vivre, même de plus difficile, il peut y avoir du sens si on dit oui. Sans analyser, sans comprendre, si on laisse en substance le bon Dieu nous prendre par la main alors qu'on est au fond du trou et de le laisser diriger la sortie du tunnel. Et cette femme l'a vécu, mais si vous saviez, dans une retraite, je le dis très simplement, j'ai eu un psychologue, donc un psychologue normalement ça s'y connaît quoi. Donc il était au bord du suicide parce que sa femme l'avait abandonné. Et il me dit, dans la retraite que je prêche, il me dit « Mon père, si je n'avais pas eu votre livre, je ne serais pas là. Je me serais suicidé. » Est-ce que vous comprenez pourquoi ça m'a bouleversé? Mais qu'est-ce qu'il a changé, ce monsieur? La même chose. La même chose. Dieu capable, Dieu qui est un Dieu bon, qui ne veut jamais le mal, mais comme le mal, c'est les créatures qui lui ont imposé. Il est capable de s'en servir en l'habitant d'intérieur. Et nous, si nous disons oui, il est capable d'en sortir un plus grand bien que le mal.
Vous abordez aussi la question de la croix, de fait. Et vous pouvez comprendre qu'on n'a pas très envie de porter la croix.
Je vais vous dire, moi, ma définition de ce que c'est porter la croix. Quand Jésus dit « Venez à moi et nul ne peut être mon disciple s'il ne porte pas sa croix », pendant toute ma jeunesse et même plus tard, je me disais « Mais comment, c'est imbuvable ce truc-là » enfin bon, jusqu'à ce que je comprenne ceci. Car la véritable exégèse de l'Écriture, c'est d'éclairer l'Écriture par l'Écriture. Et à un autre moment, je crois que c'est en Matthieu 11, 25, je ne suis pas très sûr, Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et je vous procurerai le repos. » Qu'est-ce que c'est pour moi porter la croix? C'est pas porter sa croix seule. Et puis il y aurait à côté des prières qui seraient faites par à Dieu. Ça, c'est une sorte de schizophrénie. Qu'est-ce que c'est porter sa croix? C'est s'abandonner à Dieu dans sa croix pour que Jésus porte ma croix en moi, avec moi, pas sans moi. À hauteur d'homme, on n'est pas capable de porter nos croix. Voilà pourquoi la doctrine de François de Sales est révolutionnaire et n'est surtout pas jaunie. Hein, je sais que je parle à une convaincue avec vous, Madeleine.
C'est vrai.
Et elle a une longueur d'avance, c'est qu'elle vient nous dire que dans les mains de la Providence, on en sort grandi. Mais il faut arrêter de négocier. Il faut arrêter d'être dans l'accusation. Il faut arrêter les ultimatums. Il y a un moment où il faut entrer dans l'abandon.
Alors justement, on en vient aussi à cette question, vous parliez de la négociation, de voir Dieu comme un rival, c'est-à-dire qui de moi ou de lui va pouvoir mener sa vie? Qui décide quand on dit oui à Dieu? Est-ce qu'on a toujours la main ou est-ce que on va pouvoir continuer à mener sa vie comme on la souhaiterait.
Avec vos mots, à vous, vous dites exactement le drame du péché originel, la négociation avec le diable. Qu'est-ce qui fait le diable? Il dit, mais arrêtez, vous ne comprenez donc pas que vous avez un concurrent, un jaloux? C'est parce qu'il ne veut pas vous le donner, la pomme. Quand vous allez croquer la pomme, vous inquiétez pas, vous allez devenir comme lui. Et ça, il ne veut pas parce qu'il est jaloux de vous. Et que nous le voulions ou non, nous naissons tous avec ça.
On vit avec ça. Ouais.
C'est-à-dire...
On est avec ça, en tout cas.
Oui, on est avec ça. C'est-à-dire ces fausses images de Dieu. Et nous avons toute une vie pour apprendre à guérir des fausses images. Et pour terminer notre vie par ce « in manus tuas », c'est-à-dire « entre tes mains, je remets mon esprit ». Je vous partage un petit fait. Je viens de perdre, je ne vais pas vous dire ça pour vous faire larmoyer, je viens de perdre mon meilleur ami, un monsieur qui était marié. Donc il n'a pas eu la foi. Il a fait un cancer à 50 ans. Et là, il est entré en dépression parce que tout était par terre. Le fils, la famille, la belle profession. Et puis je suis allé le visiter à l'hôpital, puis bon, d'une amitié est née très forte. Et un jour, il a voulu faire une retraite, tout seul, sans sa femme. Moi, je ne prêchais pas, j'étais vicaire de paroisse. Il est allé chercheur de Dieu le lundi du début de la retraite. Il est sorti, trouvé par Dieu. Et ce type-là, c'est intéressant parce qu'il était extrêmement angoissé de nature. Et il a vécu des années d'abandon à Dieu. Et là, je me trouvais à prêcher à des milliers de kilomètres, presque du côté du golfe du Mexique, à la Martinique. Et il ne lui restait plus que 2-3 jours à vivre. Comme il y avait un décalage horaire et qu'il ne dormait pas, il me téléphone et ce fut notre dernier entretien téléphonique. Et il me dit « Joël, je suis d'une extrême sérénité. Ça y est, la peur, tout est parti. » Et la parole qu'il a ajoutée est extraordinaire. « Je sais vers qui je vais. » Et sa femme, qui est infirmière, qui connaissait son homme, facilement inquiet, a été bouleversée par la sérénité jusqu'au dernier souffle. Presque une sérénité qui contamine. Mais ce monsieur-là, lui sait ce que c'est. Parce que cancer, ça voulait dire mort pour lui. Et il n'en est pas mort, il est mort d'autre chose. Je lui avais dit. Et donc, ce fut un très très bel itinéraire. Chers auditeurs, vous qui écoutez ça, je sais qu'un témoignage vous touchera mieux que des considérations philosophico-théologiques sur le problème du mal. Il y a un moment où il va falloir plonger, se jeter en Dieu, comme dirait Madeleine, arrêter de lui mettre des ultimatums, arrêter le chantage avec lui, entrer dans l'abandon comme l'a très bien fait François de Sales. C'est à ce prix que vous découvrirez la vraie sérénité.
Merci Père Joël Guibert, vos propos qui rejoignent la simplicité de Saint François de Sales. C'est là aussi tout son secret et votre ouvrage, c'est La confiance en Dieu avec Saint François de Sales, le secret de la sérénité aux éditions Arthège. Merci à vous.